Quel beau chant d'adoration. Croyez déjà au ciel? Mais ça va venir. Alors, je vous invite à tourner dans vos Bibles. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, et le verset 17. Pendant que vous êtes en train de trouver la place, je vous rappelle que vous devrez vous procurer ce petit livret qui s'intitule « Qu'est-ce qui nous caractérise, qui nous distingue, qui nous identifie comme assemblée ?» Et le but de cela, c'est de vous donner justement des enseignements sur nos façons de faire. Et ce n'est pas dans le but de dire que nous sommes meilleurs que les autres mouvements, mais seulement pour vous dire que nous avons un héritage riche, un héritage spirituel que les fondateurs du mouvement des frères nous ont laissé et que nous aimerions maintenant redécouvrir, approfondir avec l'aide du Seigneur. Alors la semaine dernière, nous avons commencé cette série de messages, d'enseignements. Nous avons vu avec notre frère Richard Strout l'historique. Et pour ceux et celles qui étaient là, vous allez vous rappeler de ces fondateurs et tout ce qu'ils ont fait, justement, pour nous laisser cet héritage. Et nous voulons maintenant regarder des pratiques qui nous caractérisent en tant qu'Assemblée des frères. Et ce matin, on voulait commencer avec le repas du Seigneur. Vous allez, si vous avez regardé ce matin l'écho, vous allez constater que la semaine prochaine, on annonce une série sur l'Apocalypse. Ne vous inquiétez pas. Il y a eu un petit changement dans la planification. On avait au début prévu 4 messages sur justement nos pratiques, parlant du repas du Seigneur, le baptême, le gouvernement dans l'Église, c'est d'autres sujets. Mais on va y revenir. Et dans une série de messages de hors-série, on va toucher ces points qui sont très importants pour nous en tant qu'Assemblée des frères. Alors ce matin, je vous invite alors de lire avec moi cette portion de l'Écriture, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, qui traite le repas du Seigneur. Alors je commence la lecture en donnant cet avertissement. Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous l'aurai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe, Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il le mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Et je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Comme je vous ai déjà dit et mentionné, notre frère Richard Strout a lancé la balle, commencé avec un entretien sur l'historique des Assemblées des Frères. Et c'est un mouvement qui a commencé suite à une déception par rapport à l'Église anglicaine de l'époque. Il y a plusieurs hommes qui ont quitté cette Église pour se réunir en toute simplicité, comme faisaient les disciples à l'époque néo-testamentaire. Et je vais vous citer les paroles de l'un des fondateurs de ce mouvement. Il a dit ceci. L'un ou l'autre d'entre nous, parfois plusieurs, priaient, qui n'était pas permis dans l'Église anglicaine. C'était seulement le prêtre, le clergé qui avait le droit de prier. Puis c'était la lecture de la Bible ou d'un auteur chrétien et le chant des cantiques. Il arrivait aussi que l'un d'entre nous prononce quelques paroles d'exhortation. Ces réunions ont été pour moi un moyen de bénédiction, soit parce qu'elles m'ont remis à plusieurs reprises dans le droit chemin, soit parce que j'y trouvais un temps de rafraîchissement. Et c'est signé par George Mueller, un des pères de ce mouvement. Vous savez, ce matin, nous pouvons dire amen à tout cela. Combien de fois vous avez assisté à des réunions et le Seigneur vous a remis sur le droit chemin? La prédication, c'est comme si c'était pour vous. Combien de fois vous êtes venu ici, vous êtes parti rafraîchi parce que le Saint-Esprit vous a parlé. Et Dieu merci pour toutes ces réunions de l'Assemblée. Et des réunions auxquelles vous devrez tous participer et recevoir des bénédictions. Mais même si je vous exhorte ce matin de participer à ces réunions, je dois vous mettre en garde à propos de votre manière de participer, et surtout à celle du repas du Seigneur. Et c'est pourquoi j'ai écrit le titre de mon message ce matin, « Une réunion, mais pas comme les autres ». Et nous allons voir, avec l'aide du Seigneur, quatre manières de participer dignement au repas du Seigneur. Est-ce que vous saviez que c'est la seule réunion accompagnée d'un avertissement solennel? Nous l'avons lu tantôt dans notre texte. Saviez-vous que vous ne pouvez pas participer à cette réunion de n'importe quelle manière? Sinon, vous vous attirerez un jugement de Dieu sur vous. Savez-vous comment participer de la bonne manière à cette réunion? Et si vous étiez ici ce matin, à 9h30, est-ce que vous avez participé de la bonne manière à cette réunion? Alors, notre texte va traiter précisément ce sujet. Dieu va nous révéler comment participer dignement à cette réunion. Et j'aimerais vous exhorter, en écoutant ce message, de mettre ces quatre étapes en pratique. Alors, dans un premier temps, nous devrions nous rappeler de l'importance de la communion. Et avant de considérer ce thème, mettons le texte dans son contexte. Si vous regardez dans votre texte au verset 20 et 21, l'apôtre Paul va reprendre ses Corinthiens sévèrement à cause de leur façon de célébrer le repas du Seigneur. Verset 20-21, il leur dit, « Lorsque vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. » En d'autres mots, ne dites pas que vous êtes consacrés au Seigneur et vous voulez l'honorer en obéissant à son commandement parce que ce que vous faites au repas du Seigneur, vous êtes en train de le déshonorer. Alors, dites pas que vous êtes en train de prendre le repas du Seigneur. Et il va spécifier pour de quelle façon ces chrétiens déshonoraient le Seigneur. À l'époque, il y avait les agapés. C'était les repas communs où est-ce que les chrétiens se réunissaient pour partager un repas commun. Et ensuite, c'était suivi par la Sainte Cène, le repas du Seigneur. Mais il y avait des chrétiens les plus riches, les plus fortunés, qui venaient là avec beaucoup de nourriture. Il y avait aussi ceux qui étaient plus démunis, plus pauvres. Et Paul va dire, dans ces repas-là, il y a quelques-uns qui sont là, qui mangent à leur faim, et il y a d'autres qui vont partir n'ayant rien mangé. Et même aussi, il y avait ceux qui buvaient jusqu'au point de devenir ivres. Il y avait une attitude égoïste dans cette assemblée. Il y avait du péché. Et Paul va dénoncer cela, justement dans ces versets. Et ça, c'est le contexte, justement, de notre plus beau texte, la manière de participer dignement au repas du Seigneur. Et comme je dis, tout d'abord, on devrait se rappeler de l'importance de la communion. Au chapitre 10 de ce même épître, Paul il va dire, et on va juste reculer un chapitre, je vous demande de regarder au verset 16. Ça va nous aider à comprendre maintenant cette première manière de bien comprendre comment participer dignement au repas du Seigneur. La coupe, verset, chapitre 10 au verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'était pas la communion au sang de Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et qu'est-ce que Paul voulait dire par cela? Mais le mot communion veut dire avoir en commun. Partager dans une relation d'association. Et Paul est en train de dire ici, cette réunion est caractérisée par justement une communion. Il appelle la coupe la communion au sang de Christ. Il appelle le pain la communion au corps de Christ. Et cette communion-là était un indice, justement, cette partage de l'unité spirituelle entre Christ et son Église. De l'unité spirituelle qui existe entre les membres dans l'Assemblée, les uns avec les autres. Et maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que l'attitude des Corinthiens, ceux qui agissaient de façon égoïste, était si répréhensible. Et cette unité spirituelle, cette communion, est tellement importante si on veut vraiment participer de façon digne au repas du Seigneur. Et dans un premier temps, on voit que l'importance est démontrée par le fait que le Seigneur a institué le repas du Seigneur. Regardez votre texte au chapitre 11, au verset 23. Et Paul va dire, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Je ne l'ai pas inventé. Cela ne vient pas de l'homme, ça vient directement de Dieu lui-même. Et comme Dieu a institué le mariage parce que c'était important. Il a dit qu'il était bon pour l'homme qu'il soit seul. Il a institué le mariage et il a donné une femme à Adam pour que Adam soit en communion avec cette femme. La Bible appelle d'être un sécheur. Dieu a aussi institué le repas du Seigneur parce qu'il a voulu établir une communion avec nous et une communion aussi dans le corps de Christ les uns avec les autres. Deuxièmement, cette communion est importante à cause de l'implication du Seigneur. Pas besoin d'y tourner, mais dans Luc chapitre 22, le Seigneur, lors de l'institution de la scène, Jésus va dire ceci: « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et ça, c'était justement les sentiments du cœur du Seigneur, de rassembler ses disciples autour de lui, dans une unité parfaite, et d'avoir une communion avec les siens. Et son cœur a brûlé. Il y avait une passion dans son cœur pour ce type, justement, d'intimité, de communion avec ses disciples. Il désirait vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et troisièmement, cette communion est importante parce qu'elle nous révèle dans cela, ce repas du Seigneur, l'intention de Dieu. Nous avons déjà dit que ce mot veut dire avoir en commun, partager dans une relation d'association. Et l'intention de Dieu dans cette réunion que nous appelons le repas du Seigneur, c'est que ses enfants aient en commun, partagent dans une relation d'association avec lui, avec Dieu le Père, et les uns avec les autres, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça, c'est la réunion propice pour cela. La communion, tout d'abord, avec Dieu, qui est en communion avec son Fils, et la communion aussi qui devrait exister les uns avec les autres. Et vous savez, les Écritures enseignent clairement cette vérité. Dans 1 Corinthiens 10, 17, Paul va dire: « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. » Galates 3, 28 dit ceci: « Vous êtes un en Jésus-Christ. » Et si nous sommes un en Jésus-Christ, nous sommes aussi un en Dieu. C'est une vérité fondamentale. Et dans Jean 17, Jésus va prier comme ceci: « Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Et ça, c'est une vérité fondamentale, c'est une vérité profonde, c'est une vérité démontrée par cette réunion, où est-ce que nous nous rassemblons pour avoir une communion avec Dieu, une communion les uns avec les autres, parce que nous sommes un en Jésus-Christ. Et la question doit se poser ce matin: est-ce que cette réunion est importante à vos yeux? C'est important pour Dieu. Il a institué. C'est son désir d'être en communion avec ses enfants. On a vu les sentiments du cœur du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous étiez ici ce matin à 9h30 pour participer dans cette communion? Dieu est passionné dans sa relation avec vous. Dans Psaume 50, au verset 5, il va dire ceci: « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Ça, c'est le désir du cœur du Seigneur, d'être là avec son peuple, avec la personne du Seigneur Jésus-Christ, et d'être dans l'intimité, cette communion les uns avec les autres et avec aussi son Fils. Rassemblez-moi mes fidèles. Vous savez, votre présence et votre absence au repas du Seigneur, c'est un bon indice de votre passion pour ce repas. Deuxièmement, pour participer d'une manière digne au repas du Seigneur, rappelez-vous aussi maintenant de l'importance de la commémoration. L'importance de se rappeler. Regardez votre texte, s'il vous plaît, au verset 24 et verset 25. Paul va dire ceci, « Après avoir rendu grâce aux parents du Seigneur, il le rompit de pain et dit, « Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, verset 25, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Et si le Seigneur a répété deux fois la même chose, ce n'est pas parce qu'il manque d'inspiration, mais c'est parce que c'est important. Faites ceci en mémoire de moi. Vous savez, dans notre société, le 11 septembre à 11h, le jour du souvenir, on se rappelle, on observe un moment de silence pour se rappeler des anciens combattants. Des anciens combattants qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui le Canada soit un pays libre, que nous puissions jouir de cette liberté de laquelle nous sommes si fiers. Est-ce que nous pourrions les oublier? Ces hommes et ces femmes qui ont tant souffert, qui ont affronté des dangers, qui ont même donné leur vie pour que ce pays soit un pays libre. Parce qu'il y avait une menace, si vous vous rappelez la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler et tout cela. Et dans la culture juive, Dieu aussi avait donné à son peuple plusieurs fêtes. Mais il y avait une fête qui n'était pas comme les autres. C'est la fête de Pâques. C'était une fête de souvenir, une fête où les peuples juifs se rappelaient justement qu'ils avaient été à un moment donné dans l'esclavage en Égypte et comment Dieu les avait délivrés avec sa main puissante de l'esclavage en Égypte. Et je peux vous dire que ce n'est pas par hasard. C'est de façon délibérée que le Seigneur a décidé de choisir cette même fête, la Pâque, une fête de commémoration, pour la transformer justement dans un souvenir, une fête de célébration, où est-ce qu'on se souvient de lui. Et on pourrait poser la question, pourquoi le Seigneur a fait cela? Pourquoi est-ce que nous avons besoin justement d'une fête, une célébration, une réunion spéciale pour se rappeler? Faites ceci en mémoire de moi. Mais je peux vous dire pourquoi. Parce que vous et moi, nous sommes oublieux. Et même en vieillissant, on devient de plus en plus oublieux. Et Dieu sait que c'est très facile pour nous d'oublier ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas difficile. Et quand on oublie, ça nous amène dans l'ingratitude, on devient ingrat. Et quand nous sommes ingrats, mais c'est un péché, parce que l'ingratitude, c'est un péché. Dieu nous demande dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, dans sa bonté, Dieu a institué une réunion, pas comme les autres, pour nous aider dans cette faiblesse, tout d'abord pour se rappeler. Et on va vous donner ici trois choses que le Seigneur veut, de laquelle le Seigneur veut qu'on se souvienne. Dans un premier temps, se rappeler du sacrifice du Seigneur. Pourquoi fallait-il que Christ meure sur la croix? Le texte dit simplement, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, ceci est mon sang qui est répandu pour vous. » Ailleurs, Paul va dire aux chrétiens, « Christ est mort pour nos péchés. » Et dans un premier temps, Dieu veut qu'on se rappelle de son sacrifice à votre place et à ma place. Se rappeler justement que Jésus-Christ, dans son amour, est allé à la croix et a subi le châtiment que moi et vous, vous devrez subir. Et ça, c'est une chose qu'on ne devrait jamais oublier. Jamais oublier. Et quand on se rappelle, ça nous pousse à être reconnaissants. Vous savez, au verset 24, notre texte, nous lisons que le Seigneur a rendu grâce. Comment est-ce qu'il a pu faire cela? Ça me dépasse. Mais si celui qui a été le sacrifice a été capable de rendre grâce, à combien plus forte raison nous qui sommes des récipiendaires justement de ce sacrifice devrions-nous rendre grâce? Rendre grâce pour son salut. Salut qui est gratuit pour nous, mais qui est extrêmement coûteux pour Dieu. Et dans un troisième temps, être aussi révérent face à ses souffrances. Savez que le Seigneur a beaucoup souffert. Le texte nous dit dans la nuit où il fut livré. Et pouvez-vous imaginer justement ces souffrances émotionnelles de savoir que l'un des siens allait le livrer? Ça a dû faire mal. Il y avait aussi les souffrances physiques. Dans ce texte, il parle de mon corps qui est rompu, mon sang qui est versé. Il y avait aussi des souffrances spirituelles. Il allait être abandonné par son père, frappé par la colère de Dieu. Et comment est-ce que les Corinthiens devraient-ils agir lors de leur rassemblement pour célébrer le repas du Seigneur? Quelle attitude devraient-ils démontrer? Vous savez, quand on va à l'hôpital pour visiter quelqu'un qui est souffrant ou bien quelqu'un qui est mourant, qu'est-ce qu'on observe? Il y a une révérence, il y a un silence, il y a du respect. Si on parle, d'habitude, on chuchote face justement à cette personne-là qui est souffrante. Et vous savez, c'était une mépris. Là. C'était vraiment, ces Corinthiens avaient perverti le repas du Seigneur par leur attitude, en étant ivres. Il y avait ceux qui, parmi eux, qui étaient des gloutons. Et si les souffrances du Seigneur soulignent dans cette réunion, justement, le caractère et la nature solennelle de cette réunion. Et dans la société, si nous sommes capables de démontrer révérence et respect pour justement des types de circonstances qui exigent cela, je vous donne un exemple. Ceux de la religion populaire, quand ils vont dans une église, démontre de la révérence, du respect. Parce que pour eux, le bâtiment est sacré. Et nous, quand nous nous approchons du repas du Seigneur, nous nous rappelons de ses souffrances, nous devrions aussi nous approcher avec révérence et respect. On devrait déplorer justement souvent une attitude de familiarité qui nous permet justement à manquer de respect et de révérence. Et ici, je dois faire référence à ce qui s'est passé dimanche dernier. Vous savez, et dans un premier temps, je vais vous dire qu'il y a quelques-uns et plusieurs parmi nous qui ont justement cette bonne attitude. Et c'est beau de vous voir quand vous venez le dimanche matin. Il y a 15 minutes pour le recueillement. Vous êtes assis à votre place. Vos bibles sont ouvertes. Et vous êtes en train justement de méditer, de vous préparer. Mais dimanche dernier, il a fallu que quelqu'un se lève et demande le silence. Et vous savez qui vous êtes, mais vous avez manqué justement des révérences, des respects. Ce type de réunion, où est-ce qu'on est dans la présence du Seigneur, où on est face à ces souffrances-là, exige du respect et de la révérence. Vous savez, je pense que la problématique, c'était manque de préparation. Dans Matthieu 26, ce n'est pas besoin de tourner, mais les disciples ont posé une question au Seigneur. Ils ont dit, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Et manger la Pâque, ça prenait la préparation. Et je vous dis la même chose aussi, manger le repas du Seigneur, participer au repas du Seigneur, ça prend de la préparation. Peut-être pour quelques-uns, ça voudrait indiquer fermer la TV plus tôt le samedi soir, prendre le temps de lire, méditer, prier. Peut-être couper la veillée de la soirée aussi pour coucher plus tôt, d'être en forme. Et il y a un bel exemple dans la parole de Dieu, je vous laisse avec cela. Les frères de Joseph s'en vont en Égypte et ils apportent un présent pour offrir justement au gouverneur. Ils ne savent pas que c'est Joseph, mais ils apportent un présent. Le texte nous dit qu'ils ont apporté des aromates, du miel, un peu de baume et ainsi de suite. Et là, on les amène dans la maison de Joseph et on leur dit, vous allez manger avec Joseph à midi. Et nous lisons qu'il prépara le présent en attendant que Joseph vienne à midi. Et quand Joseph est arrivé, il lui offrit le présent et se prosterna devant lui. Et je trouve cela, c'est un bel exemple de ceux qui voulaient justement rendre hommage à cet homme. Ils avaient apporté de quoi, mais ils ont pris le temps de le préparer. Et combien c'est important pour nous dans une attitude de révérence et de respect, de prendre ce temps-là, de préparer ce que nous avons apporté à donner au Seigneur. Et si la tentation est trop forte, chers frères et sœurs, et vous avez une difficulté, mais je vous conseille peut-être de rester à l'extérieur de la salle du culte et de respecter ceux et celles qui veulent simplement se recueillir et prendre le temps justement de se préparer pour le repas du Seigneur. Troisièmement, rappelez-vous de l'importance de la contemplation. Le verset 23 de notre texte, le Seigneur Jésus va dire ceci. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et comment est-ce que les disciples devraient-ils comprendre les paroles du Seigneur? Comment devraient-ils les Corinthiens comprendre ces paroles? Et quand on lit ces paroles, quand le Seigneur a dit « Ceci est mon corps », en parlant du pain, et en parlant de la coupe, « Ceci est mon sang », comment est-ce que nous devrions comprendre ces paroles? Et dans un premier temps, je vous dis non. Il y a une doctrine qu'on appelle la transsubstantiation, un long mot, qui veut dire simplement que quand Jésus a dit cela, il a fait un miracle et justement le pain est devenu son vrai corps et la coupe, c'était justement les contenus de la coupe est devenu son vrai sang. Et les disciples ont participé justement au sang et au corps du Seigneur Jésus-Christ. La transsubstantiation. Ils ont mangé le vrai corps et bu du vrai sang du Seigneur. Vous savez, quand Jésus a posé ce geste, il était encore vivant. Son corps n'était pas encore rompu, ni son sang versé. Et nous croyons fermement ici que les disciples ont compris qu'il ne s'agissait que juste des symboles. Et c'est pourquoi nous disons non à la transsubstantiation, mais nous disons oui à la substitution. Le Seigneur, par le pain et par le fruit de la vigne, voulait démontrer par ces deux symboles-là la substitution qui allait prendre notre place à la croix. Ésaïe 53 nous dit ceci, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Vous savez, quand on participe à ces symboles, on ne devient pas plus spirituel. Parce que vous avez Jésus en vous. Quand vous participez aux symboles aussi, vous n'allez pas avoir un certain feeling. Il n'y a rien de mystique avec les éléments. C'est du pain, absolument. C'est le fruit de la vigne. Mais ces deux symboles-là ont une réalité profonde. Symbolise l'amour de Dieu pour les siens jusqu'à donner son Fils bien-aimé. Symbolise l'amour de Christ pour son Église jusqu'au point de se sacrifier pour elle. Symbolise l'amour de Christ jusqu'au point de mourir sur la croix pour vous et pour moi. Je vais terminer avec les paroles d'un cantique. Notre frère Richard Strauss nous a dit que ses premiers frères nous ont laissé un riche héritage en hymnologie, des hymnes qu'ils ont composés avec justement des profondeurs et des vérités spirituelles. Je vais vous lire les paroles d'un de ces hymnes. L'amour éternel, insondable de Jésus-Christ, le sang versé pour moi, coupable par Jésus-Christ, me rachète de ma misère, m'arrache à la mort, à la terre. En moi s'accomplit le mystère de Jésus-Christ. Quand mon âme, je sente l'âme de Jésus-Christ, que dans mon cœur brûle la flamme de Jésus-Christ. Le péché m'attaque à toute heure, mais pour qu'à tout péché je meurs, fais qu'en toi toujours je demeure, ô Jésus-Christ. Ô mon âme, redis sans cesse, rien que Jésus. Prends pour force dans la faiblesse, rien que Jésus. Sois en paix. Sous la croix, adore, attendant la céleste aurore, où les saints répètent encore rien que Jésus. Et que cela soit votre désir et le mien. Dieu voulant, on reviendra probablement pour le dernier point où est-ce qu'on parle de l'importance de la confession. Notre frère Jean-Guy Paquette l'a mentionné ce matin. Je vois que le temps est écoulé et j'arrête là. Mais dans le texte, il y avait justement ce point, l'importance de se juger si on voulait justement participer d'une façon digne au repas du Seigneur. On va prier.